Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Salut, ça va?
Hello, vous écoutez Salut, ça va? Le podcast qui veut briser les tabous autour de la santé mentale et vous donner des clés pour prendre soin de vous autrement.
Pour aller plus loin, on vous propose désormais un programme de coaching en ligne complet qui met en application des outils concrets et validés.
Rendez-vous sur techcare.co.
Bonne écoute!
Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Salut, ça va, saison 3.
C'est la nouvelle saison.
Non mais attends, qui l'eût cru qu'on en serait là? Trois saisons
plus
tard. Qui l'eût cru? Non mais surtout, je pense qu'il faut planter le décor, hein, une fois de plus.
Dans quel état on commence cette nouvelle saison?
C'est vrai que c'est important de planter le contexte.
Du coup, nous sommes dans ta voiture, devant chez moi.
Exactement, en pyjama.
En pyjama. Moi, j'ai une tache de sauce tomate sur la cuisse faite par mon enfant.
Oui, exactement.
Et un chignon, et voilà.
Et on est un peu en fin de journée, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, on est un peu à la maison. Voilà, tu vois?
Tout à fait. Mais donc, c'est une nouvelle saison qui démarre.
Ouais, saison 3. Et c'est marrant parce que, avec le recul, les trois saisons sont complètement différentes. Enfin, bon, vous ne savez pas encore ce qu'on vous prépare pour la saison 3, mais nous, on le sait. Et on sait que c'est quand même différent des deux précédentes saisons, donc c'est cool.
On affine notre projet.
Tout à fait.
On évolue.
Et ouais, on évolue. Et je pense que cette saison réserve bien des surprises et que ce sera vachement plus nous parce que vous allez voir que je pense. Au niveau engagement, on a pas mal prévu de...
C'est ça.
Voilà, d'en dire. C'est vrai qu'on est des personnes quand même dans la vie qui aiment bien...
Hein. Oui, qui sommes très engagées. Et c'est vrai que ça a pu manquer peut-être sur... Bon, la saison, j'en parle même pas parce que c'était...
Oui, c'était théorique, mais quelque part, c'est des bases qui sont nécessaires.
Mais qui étaient importantes. Voilà, ça a ouvert le débat et le sujet sur la santé mentale.
Exactement, la santé mentale. Très important.
Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Mais du coup, bon, une saison, nous.
Ouais, exactement, ça. Une saison nous, pour retenir le sous-titre de ce podcast. Bon, en tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on a décidé de vous parler du bon moment. C'est quoi le bon moment?
Est-ce qu'il y a un bon moment?
Ouais, c'est un peu philo, hein, mais clairement, je pense que c'est une question qui, de toute façon, se pose à un moment donné dans notre vie, que ce soit perso ou pro, parce que c'est une question...
Ce que j'allais dire dans quasiment tous les projets de la vie, alors souvent des projets importants quand même,
oui,
mais pas que, finalement, en fait.
Bah, ça peut être des fois sur des petites choses qui vont lancer des grandes choses, tu vois. Je pense notamment, genre, tout ce qui projets pro et tout, tu vas te dire tu vois une formation qui t'intéresse et tout, t'es déjà engagé dans un de tes tafs et t'as pas forcément envie de quitter tout ton travail pour relancer dans un énorme projet et tout, mais tu te dis bon, cette formation elle m'intéresse, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment de la commencer, ou c'est vraiment le bon moment de la faire, ou tu vois, ou une relation, dans une relation tu te dis est-ce que c'est le bon moment. Il y a aussi le bon moment prédit par la société, on va en parler je pense, mais c'est quand le bon moment pour avoir des enfants, est-ce qu'il faut absolument passer par tous les bons moments que tu vois,
oui, puis tout est scandé, ritualisé dans la société, qui font qu'il y a des temps très forts, c'est pour ça qu'on fête nos anniversaires, c'est pour ça que
les marronniers,
oui voilà.
C'est devenu assez commercial et je pense que la société de consommation a rendu des temps très forts de c'est le moment de se dire qu'on s'aime, la Saint-Valentin, c'est le moment de manger du chocolat à Pâques, tu vois. Non mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où une espèce de norme, et en fait le bon moment de l'un ne sera pas le bon moment de l'autre.
Oui, tout à fait,
tu vois,
c'est toujours la question de l'équilibre de l'un qui n'est pas l'équilibre de l'autre.
Exactement.
Et le bon moment de l'un,
est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es posé la question est-ce que c'est le bon moment, genre un de tes premiers moments, tu vois, dans ta mémoire, genre les études ou...
Pour mon lancement libéral, déjà.
Ouais. Les études, t'as pas trop hésité?
Non, j'ai toujours su que je ferais des études longues.
Ouais.
Déjà parce que je pense que je me destinais à des métiers où c'était nécessaire, mais aussi parce que je pense que ça m'a apporté une certaine reconnaissance. Voilà, parce que j'ai été habituée à avoir ma reconnaissance aussi comme ça. Avec le recul, je sais que c'est pas super bien, on est d'accord, mais malheureusement en France, beaucoup de reconnaissance est portée là-dessus, hein, c'est une réalité. Donc non, pour les études, pas du tout, mais par contre, mon lancement en libéral...
Ouais.
ça a été une vraie question de savoir si c'était le bon moment ou pas, parce qu'on nous apprend beaucoup en tant que psycho dans les études où il faudrait faire énormément d'institutions, et j'en ai fait beaucoup, etc.
Déjà, vos stages sont vachement denses.
Oui, nos stages sont très denses, et puis en plus de ça, enfin moi j'ai bossé en clinique psychiatrique,
oui,
donc
c'est clair.
Enfin, je veux dire, j'ai fait de l'institution, mais il y a toujours ce truc de légitimité, etc.
L'âge.
Enfin, moi, on me renvoie souvent à mon âge. En plus, je fais très jeune physiquement.
Ouais. Donc, Mathilde est plus vieille que moi, d'accord ?
Et oui, on dirait pas comme ça des fois, mais c'est le cas.
Ouais.
Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là de, je pense, ouais, plutôt légitimité, l'âge et l'expérience. Et puis surtout que dans le monde des psychologues, faut pas croire, mais ça se tire dessus quand même. Hein,
en fait, les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais entre professionnels, même dans les milieux médicaux et tout, le jugement est présent. Hein, la comparaison, on regarde ce que fait l'autre, etc. Et comme chaque parcours est hyper subjectif, forcément, au moment où tu sautes, en plus, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, quand tu passes du statut de salarié en plus à entrepreneur, donc même si toi, t'es en libéral, tu restes ton propre patron, tu es donc à ton compte jeune, parce qu'au final, t'es jeune, entre guillemets, tu vois, selon les codes de la société, entre guillemets, bah, c'est un grand saut, quoi, parce que ça veut dire que c'est une responsabilité, et il y a vachement ce truc de t'es jeune, donc est-ce que tu vas pouvoir aussi assumer, tu vois, la charge financière, et te lancer dans le truc, enfin, et t'es une femme aussi.
Il y a ça, et puis il y a le côté expérience aussi.
Ouais.
On te renvoie souvent à ton expérience, comme si d'ailleurs c'est l'expérience qui te rendait psychologue. Alors,
mais non, dans tous les
métiers. Et quels que soient les métiers d'ailleurs, hein, parce que des fois, je parle de ce que je connais, mais.
Oui, non, mais bien sûr. Enfin, et si t'es chirurgien et que t'as jamais opéré un cœur, c'est sûr que, voilà, on est bien d'accord, mais c'est vrai que dans beaucoup de métiers, et surtout dans les métiers de nos générations, tu vois, où il y a beaucoup de. Bah, on le voit bien, de métiers qui peuvent se faire à distance, des trucs de digital, de nouvelles technologies, t'as vachement de personnes qui n'ont pas forcément des gros expériences dans des grosses boîtes, etc., mais qui ont une telle volonté d'apprendre et de s'auto-former et de se spécialiser, etc., qu'on voit que c'est des métiers qui...
Oui, et puis même, des fois, t'as beau avoir toute l'expérience du monde et pas être bon dans ton métier aussi. Enfin, ça peut exister.
C'est pas un gage de qualité.
clairement pas. Non, mais vraiment pas. Mais du coup, tu vois, c'est vraiment des trucs un peu externes qui m'avaient vraiment posé la question de ce bon moment. Je sais pas si tu te rappelles, mais j'avais reçu un message sur mon site internet d'une confrère psychologue
c'est
qui m'avait fait tout un pavé pour m'expliquer à quel point j'étais irresponsable. Alors
c'est
que
vrai.
Vraiment, enfin, en soi, il y avait de la place pour tout le monde. Et puis...
Oui, et qui était-elle pour porter un jugement, tu vois ?
Oui, et puis en plus de ça, je me suis dit, elle avait pris le temps de m'écrire. Du coup, j'avais un peu échangé avec elle, mais moi, ça va que j'avais quand même des bases solides sur certains points pour me dire, bon, enfin, passe au-dessus.
Ça n'a pas remis en question ton
mais
bon moment.
Mais ça m'a fait douter quand même.
Ouais, voilà,
ça m'a fait douter. C'est pour ça que le pouvoir des mots, alors que vraiment, je ne connaissais pas cette personne. Hein.
Oui, c'est fou. Hein. Oui, mais tu vois, c'est bien pour ça que cette théorie du bon moment, elle est tellement aléatoire parce que...
Et fragile,
mais complètement, parce que ça dépend du regard des autres, de l'environnement, de la façon où tu te sens à l'instant T. Je veux dire, rien que le cycle menstruel pour une femme, la prise de décision en fonction des phases de ton cycle. Mais là, moi, aujourd'hui, je viens d'avoir mes règles à l'heure où j'enregistre ce podcast et je vous assure que j'étais censée devoir prendre quelques décisions aujourd'hui et j'ai repoussé. Mais en conscience de me dire, là, aujourd'hui, je vais les prendre sous le coup de l'émotion. Et c'est normal, je veux dire, hormonalement, c'est un chamboulement qui ne peut pas être anodin et qui, dans des décisions justement aussi importantes, etc., alors vous ne choisissez pas en une journée généralement de vous lancer en libéral ou pas, mais même sur des petites décisions de la vie, tu vois, eh ben juste se dire à un moment donné, quand je sens que ça me prend au niveau émotionnel et tout, ne pas réagir forcément à chaud et de dire ok, là je vais peut-être remettre ma capacité décisionnelle à demain, tu vois.
Complètement, quand on a un syndrome prémenstruel, de toute façon, quand ce sont des grosses décisions, vaut mieux les repousser. Et d'ailleurs, tu as bien fait de le faire te concernant.
C'est ça. Oui, je pense qu'il y a plein de phases de la vie. Et même, tu vois, des phases où, quand tu te demandes, par exemple, est-ce que c'est le bon moment, je sais pas, tu vois, d'entreprendre. Bon, alors, ça peut. Une relation, je pense que c'est différent. Est-ce que, tu vois, t'es dans le même mood de est-ce que je commence cette relation ou est-ce que je vais commencer un nouveau job ? Je pense que les émotions sont pas les mêmes.
Oui, ou est-ce que c'est le moment d'avoir un enfant aussi ?
Ouais.
Ça, c'est une vraie question. Beaucoup de couples se sont peut-être déjà posés, pas tous, hein, parce qu'il y a des couples et des gens qui ne veulent pas d'enfants,
ouais,
c'est ok.
C'est okay.
Mais et ils ne le regretteront pas forcément plus tard.
Ouais,
je
ça,
aussi.
C'est terrible.
Mais il y a toujours, oui, c'est vraiment cette. Ouais. Mais parce que, en fait, pourquoi on se demande si c'est le bon moment ? Parce qu'on a peur de se tromper, ouais, alors qu'en vérité, on a le droit de se tromper.
Bah, qu'est-ce qu'on risque ?
Bah, on risque de se tromper, c'est vrai. Mais si on se trompe, on verra au moment où on s'est trompé, comment comment on réajuste les choses.
Encore une fois, c'est l'anticipation inutile.
Et c'est souvent ça, c'est souvent l'anticipation anxieuse qui fait qu'on ne se lance pas dans des projets qui pourraient nous tenir à cœur, parce qu'on se dit c'est pas le bon moment, parce que je ne suis pas peut-être assez stable à ce niveau-là, ou parce que j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Et parfois, c'est aussi comme ça qu'on passe à côté de choses qui pourraient nous convenir davantage, d'ailleurs.
Oui. Alors, il y a des petites choses, tu vois, je sais que moi, j'avais l'habitude, et on entend beaucoup ça, tu sais, les fameuses colonnes, je pose le pour et le contre de ma décision. Et parfois, ça aide, ça dépend de...
En vrai, c'est pas mal.
Bah ouais, tu vois, de le poser choses, clairement et de te dire, toi, voilà, comment est-ce que tu le ressens? Qu'est-ce que tu juges de positif? Qu'est-ce que tu juges de négatif, entre guillemets, même si c'est pas forcément comme ça. Mais plus, voilà, avoir un visuel et pouvoir prendre du recul, parce que déjà, rien que le fait de passer de mes pensées à l'écrit, t'as un autre regard quand même sur les choses.
Puis ce qui est pas mal aussi, c'est quand tu te... Parce que dans les contres, du coup, tu vas souvent avoir justement ces anticipations anxieuses, de te demander, en fait, si les problèmes que tu écris dans les contres, ce sont des problèmes actuels ou des problèmes qui ne sont pas là.
C'est ça.
Parce que, en fait, des problèmes qui ne sont pas là, dans l'absolu...
Oui, tu peux les rayer de ta liste.
Concrètement, oui, ils ne sont pas là.
Bah, en fait, ça reste de la probabilité.
Totalement.
Et donc, on n'est pas forcément très fort en maths ici, mais quand même, la probabilité, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire que ça peut aussi ne pas se passer.
Mais complètement.
Donc, si tu listes toutes les choses qui peuvent ou pas se passer, ta liste, je pense, est infinie. Donc,
oui,
mais concentrons-nous sur le factuel, quoi. Quelque part.
Tout
c'est
à
un
fait.
Peu là-dessus qu'on pourrait se recentrer.
Complètement. Et puis c'est pour ça que, en fait, tu peux de toute façon réfléchir ad vitam aeternam. Bonjour la rumination. Et la rumination n'a pas de fin parce que c'est infini et il y a 3 milliards de scénarios possibles. Donc
on se recentre. Et finalement, peut-être que si vous avez tendance à être quelqu'un qui a besoin, tu vois, de justement poser les choses ou d'avoir quelque chose d'un peu plus concret, on va dire visuel, etc., le fait de poser à l'écrit, ça peut être un truc pas mal. Il y a aussi ce truc, je trouve, dans le cadre de décision, de faire attention entre guillemets, à qui on en parle.
C'est exactement ce que j'allais te dire.
Voilà, parce que moi, je
l'entourage.
Sais que personnellement, tu vois, pour ma maison, ça a été une prise de décision. Quand j'ai visité ma maison, qu'il a fallu l'acheter, je sais que, par exemple, je ne l'ai absolument pas montré à ma maman. Et c'était conscient, et je lui ai dit, parce que je sais que c'est une personne qui n'a absolument pas la capacité de se projeter dans l'espace. Et elle a plein d'autres qualités, mais ça, ça n'en est pas une, et elle peut facilement, justement, anticiper des choses qui ne sont pas là, etc. Et en fait, je savais que ça allait juste être anxiogène, donc j'ai fait appel à mon papa, qui lui a plus cette vision-là, avec qui je suis moins proche émotionnellement et relationnellement, mais je savais que, à ce moment-là, pour cette décision, ça allait être un regard plus juste et objectif. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas forcément des personnes qui vont juger la décision, parce que ça nous appartient, mais des personnes qui, juste, vont être soutenantes, en fait.
Oui, il faut faire attention à qui on en parle. Je pense que de toute façon, il vaut mieux en parler à des gens qui sont très proches de soi quand même. Et puis qui sont dans la bienveillance, qui sont soutenants. Ouais.
Et qui ne parlent pas d'eux-mêmes.
Voilà, et qui ne projettent pas sur ce que eux, ils auraient fait à votre place.
Ouais.
Parce que c'est souvent ça.
C'est hyper courant, ça.
D'ailleurs, ça se voit beaucoup chez les parents sur leurs enfants.
Ouais.
Moi à ta place, ou moi à ton âge, je faisais ci, je faisais ça. Oui, mais en fait, là, ça ne se passera peut-être pas comme ça.
Mais je pense qu'on le fait tous. C'est marrant, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Mais en fait, en tant que parent, en tant que jeune parent, il y a vraiment des moments où, même si tu arrives à l'analyser de façon factuelle a posteriori, quand tu es sur la situation et sur l'émotion, tu as une première réaction qui te vient.
Ah, complètement.
Et c'est exactement la même chose quand tu as une décision ou quand, encore une fois, tu as des réponses émotionnelles qui sont très souvent les premières. Et le côté argumentaire, logique, etc., ça vient souvent dans un second temps. Mais il y a aussi cette notion de temps, je pense, de s'autoriser à se laisser le temps. Quand c'est pas quelque chose d'anxiogène, ou justement, comme tu disais, t'es dans une rumination infinie, mais il y a des décisions où on a une pression qui peut être justement extérieure,
externe,
que ce soit de la société, que ce soit ton âge, que ce soit ta situation, t'es en couple en fait, mais je comprends pas, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble, mais vous habitez pas ensemble. Mais c'est bizarre, pourquoi vous habitez pas ensemble? Mais vous avez peur d'habiter ensemble?
Oui, parce qu'il y a des carcans sociétaux aussi qu'on s'impose, comme s'il faudrait forcément habiter en couple. Mais tu vois, tu parlais de l'âge et tout, je pense que plus tu vieillis quand même, et plus ta notion du temps évolue. Tu sais que ta notion du temps aujourd'hui n'est pas celle de
quand
t'avais enfant,
etc. Quand tu deviens parent, le temps.
Mais je pense que du coup, voir le temps défiler, ça peut aussi faire peur à certaines personnes. C'est d'ailleurs pour ça que peut-être il y a rien qui a été fait sur tout ce qui est crise de la quarantaine, tout ça, etc.
Oui.
Dans l'absolu, ça n'existe pas en soi. Mais peut-être que c'est une vraie question. Hein, peut-être que plus tu avances dans l'âge et plus le fait de voir le temps défiler fait que tu es plus pressé par vivre des choses, etc.
Oui, mais pourquoi? Enfin. Je n'ai pas la réponse, hein, mais c'est un regard et un questionnement que je pose plus sur cette société de consommation, consumériste et tout, dont je fais totalement partie, hein, attention. Mais tu as ce truc-là de attention à l'âge, parce que l'âge, c'est aussi beaucoup pour les femmes, hein, ce truc de désir, d'être désirable.
Ah oui, complètement.
Et donc, tu vois, d'avoir entamé des process de vie où, à un moment donné, est-ce que je suis encore suffisamment désirable pour m'accomplir en tant que femme, c'est-à-dire avoir un mari et des enfants, parce que ça a été énormément connoté comme ça, ce qui est terrible, on est bien d'accord. Mais t'as énormément ce truc-là de te dire, en fait, est-ce que moi, je vis pour m'accomplir en tant que femme, en tant que personne, en tant, dans ma carrière, etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, il y a des cases que je dois cocher, tu vois. Et je sais pas si cette pression-là est ressentie autant pour les hommes, honnêtement.
Non, je pense pas.
Parce que franchement, tu vois, rien que regarde le marché de la ride.
En fait, je pense qu'ils ont d'autres pressions.
Oui, bien sûr, certainement. Tu vois, même au boulot, même dans cette espèce de réussite, de virilité, c'est évident. Et ça va avec cette société hyper imagée, hyper sexualisée, etc. Mais ce truc-là de la course contre la montre, de la ride qui apparaît, du cheveu blanc qui apparaît, de à un moment donné, est-ce que du coup ça me rendra moins désirable ? Il y a vachement cette notion encore hyper hétérocentrée de il faut que je trouve mon partenaire de vie et tout. Tu vois, je pense qu'il y a quand même une pression. Moi, je sais qu'il y a des moments de ma vie où, tu vois, quand on a eu des moments de couple très compliqués et tout avec Samuel il y a quelques années, quand j'en parlais avec certaines copines et tout, qui me disaient, mais si vous vous séparez, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Mais tu vas être seule. Enfin, c'est terrible. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, bon, oui.
Ce n'est plus juste d'actualité, mais même. Enfin, c'est-à-dire que je pense que jamais de la vie, on lui a insinué des trucs comme ça, tu vois. Parce que pour lui, en tant qu'homme, le bon moment d'être seul ou d'être en couple, ben, il existe sans exister. C'est-à-dire que, tu vois, on le présente rarement comme l'homme d'eux.
Je pense qu'ils ont moins de pression à ce niveau-là. Ça, c'est indéniable. Mais je pense quand même qu'un homme qui vieillit, qui n'a pas d'enfant, etc., finit par avoir cette forme de pression-là.
S'il a une carrière brillante et qu'il est riche, tu crois vraiment ? Je suis pas sûre, moi.
Je sais pas.
Regardez, enfin, je vois les exemples.
Je peux pas te dire, mais je pense que dans la majorité des cas, si, t'as toujours ce genre de phrase un petit peu de. Alors, quand est-ce que tu nous ramènes une femme à la maison ? Quand est-ce que tu me fais des petits enfants ?
Oui, oui, je pense que je suis complètement d'accord avec toi sur le côté de
mais
l'environnement et des proches.
J'imagine que la pression n'est pas la même, mais.
Mais je parlais plus, je pense, du côté des femmes en plus de l'environnement. Je crois qu'il y a un truc de pression de société qu'on s'auto-met. Enfin, je veux dire, regarde les Disney d'avant par lesquels on a été bercés.
C'est
tu
terrible.
Connais les princesses célibataires ? Non, non, mais c'est réel. Enfin,
non, elles se font sauver
voilà.
Par un homme.
Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est ancré dans un espèce de truc où, quand tu te projettes, c'est la robe de princesse de mariée, tes enfants, le monospace, le chien, la villa. Et,
Et tu sais, des fois, je me demande si on aime vraiment ça parce qu'on aime ça, ou si on aime vraiment ça parce qu'on l'apprend aussi depuis petite.
Mais c'est comme les poils, hein. Enfin,
la
transition était complètement what the fuck. C'est comme les poils. Non, mais. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est toutes ces constructions où vraiment, genre, je me dis, mais est-ce qu'un jour, un homme, c'est. Enfin, pas un homme, bien sûr, parce que ça doit exister sur Terre, hein. Il y a des hommes qui n'aiment pas les poils, c'est pas la question, mais est-ce que tu vois, tous les hommes qui ont grandi avec des poils sans se poser la question se sont un jour posé la question de se dire, oh là là, est-ce que je vais enlever mes poils ? Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est.
Oui, oui, oui. Et puis en fait, finalement, plus on s'y confronte et plus ça devient normal, je trouve.
Alors,
Que moi, j'ai été la première à trouver ça pas beau, mais parce que c'était tellement ancré, alors qu'aujourd'hui j'ai beaucoup moins de mal à ne pas me raser, à ne pas m'épiler. Enfin, je m'en fous, mais et ça ne me choque plus de voir une femme avec des poils sous les bras.
Écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça m'a fait tilt l'été dernier quand on était ensemble dans les Cévennes. Et on en parlait, je crois, à un moment donné, et je disais, mais tu vois, là, alors il se trouve que dans les Cévennes, il y a beaucoup de personnes qui ne font pas du tout attention à leurs poils et qui sont très à l'aise avec leur corps. Et tu vois, de voir ça, de voir, c'est-à-dire plein d'humains autour de moi qui se baignaient l'été avec des poils, etc. Et en fait, moi-même, qui n'étais pas forcément épilée, je me sentais pas mal à l'aise. Et c'est terrible, parce que ça veut dire que le regard que tu portes sur ton corps et la façon dont tu choisis ou non de t'épiler est corrélé à ton environnement et à comment les autres sont, tu vois, ou ne sont pas.
Oui, oui. Mais oui, et puis du coup, là, tu vois, c'était tout autour de toi, donc ça devenait. Enfin, ta norme change, en fait.
Ça devenait
et ça m'a fait pareil avec les corps qui avaient des formes, tu vois. Je pense que, en toute honnêteté, vu que j'ai grandi dans une société grossophobe et que j'ai des parents grossophobes, je n'ai pas honte de le dire, je pense que j'ai pu l'être de façon plus jeune, hein. Et qu'il m'a fallu vraiment regarder en fait, ces corps-là, que ces corps soient plus montrés, que je m'abonne à des comptes qui montraient l'inclusivité des corps. Et même pour moi, en fait, tu vois, je l'ai fait aussi parce que dans l'acceptation des corps, etc. Et puis parce que de toute façon, je pense que avec le métier qu'on fait, il est hyper important qu'on soit
dans un
processus de déconstruction en permanence. Et aujourd'hui, je sais que je ne le suis plus. mais je sais que je l'ai été, malgré moi, tu vois.
Oui,
et plus
bien
tu te confrontes à quelque chose, et plus finalement tu...
Mais je pense que ça, c'est une excellente réflexion entre ce avec quoi tu pars, c'est-à-dire le terreau de ton enfance, tes constructions, tu vois, tes injonctions, etc., et ce que tu décides d'en faire adulte, et comment, en fait, tout ton environnement actuel, et c'est pour ça qu'on le rappellera jamais assez, mais vraiment, l'environnement même digital, il est hyper important. Trier vos abonnements sur Instagram, sur les réseaux, sur ce que vous regardez sur TikTok. Moi, je bannis des comptes tous les jours sur TikTok et tout, de trucs qui me triggerent, mais vraiment, parce que...
Et là, c'est toujours le bon moment de le faire.
Et ça, exactement. Et ça, tu vois, vraiment. C'est... Non, mais vraiment. Ça, pour le coup, c'est une décision. À partir du moment où on parle de, tu vois, justement, des pensées, des décisions qui sont prises sous le coup de l'émotion, etc. Mais quand il y a des choses comme ça qui viennent toucher des complexes, des sentiments de culpabilité, de honte, etc., quand vous êtes confronté à certaines images et tout, mais punaise, là, la prise de décision, c'est OK qu'elle soit hyper rapide.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
En fait, parce que ça peut être vraiment délétère. Quand tu passes, tu vois, on regarde nos temps d'écran sur les smartphones et tout, 6, 7, 8, 9 heures par jour. C'est évident que ça conditionne une façon de
penser. De toute façon, voilà, on dit qu'il faut choisir son entourage. En fait, l'entourage, enfin, pour moi, le digital fait aussi partie de l'entourage. Et on parle d'environnement, voilà, on parle d'environnement digital, mais ça reste aussi de l'entourage, finalement.
Complètement.
Et si les personnes qui gravitent autour de vous doivent être bienveillantes, soutenantes, aidantes, etc., eh bien, il en va de même sur les réseaux sociaux.
Non, mais clairement. Alors, recentrons sur notre problématique de départ, mais c'est très bien qu'on... Nous, on adore... disgresser comme
nous
ça.
Digressons.
Ouais, nous digressons, mais c'est...
Je ne te vois presque plus.
Ouais, le soleil se couche en même temps que nous continuons à parler. Mais c'est vrai que, donc cette prise de décision, on parlait des petits outils, tu vois, de pouvoir à un moment donné poser, s'entourer de personnes soutenantes et pas non plus en parler à 15 000 personnes. Mais je pense que c'est aussi quelque chose qui, si jamais ça vous tente, je sais que personnellement, je l'ai fait pour 2-3 trucs. En parler à quelqu'un qui, par contre, ne vous connaît pas du tout. Et sans forcément en parler en mode « voilà, j'ai une idée, etc. » Mais plus sur des sujets, je ne sais pas, par exemple, sur des idées, moi, des idées, tu vois, dans le business, machin, etc. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion avec des gens totalement random sur des trucs, voilà, et juste de parler d'un sujet. Et parfois, il y a des petites choses comme ça, des petites phrases ou des personnes qui vont raconter des anecdotes de vie, etc., que vous n'auriez pas envisagées. Parce que ça sort de votre zone de connu, tu vois, vraiment de votre environnement, des professions que vous avez l'habitude de côtoyer, etc. Peu importe. Et ça va peut-être apporter une possibilité nouvelle. Et souvent, quand... alors là, je parle surtout pour
peut-être
tout ce qui
quelque
est
chose de
projet.
Plus objectif.
Oui.
Un regard objectif.
Et sans que ce soit centré sur vous et avec ce que la personne projette sur vous, puisqu'elle ne vous connaît pas. C'est plus un regard sur le sujet de la décision et non pas sur toi qui prends la décision. C'est un exercice qui est assez intéressant, franchement, si on se le sent. On le sait, tu es la pro des challenges de la timidité maintenant. Mais tu vois, c'est intéressant, non pas d'y mettre un avis trop décisif, en fait, tu vois, un poids trop décisif, en mode je vais choisir cette personne et ce qu'elle me dira sera la décision. Mais non, plus dans le partage d'expérience. En fait, quand tu parles avec les gens, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu n'avais pas envisagées. Parce que tu es le reflet. Alors, attention, je n'aime pas ces théories. On n'aime pas trop ces théories, mais tu sais, quand on dit qu'on est un peu la somme des 5 personnes les plus proches de nous, bon, alors, il n'y a pas de théorie scientifique là-dessus, mais quand même, si tu penses d'un point de vue logique.
Non, mais tu t'entoures a priori des gens
voilà,
qui te ressemblent un
avec
peu.
Tes valeurs.
Voilà, qui ont les mêmes
visions, valeurs
que toi, et au moins, ou des centres d'intérêt communs, ou
voilà.
Il y a des choses qui te relient a priori avec les
ça
personnes
paraît plutôt
que tu côtoies.
Donc, c'est vrai que s'extraire un petit peu de ça, quand on a des décisions, des idées, etc. Ça peut être intéressant. Après, je pense que ce serait tellement facile d'aller vers le truc de « il n'y a pas de bon moment, le moment c'est vous », etc. Mais c'est une réalité. Je veux dire, on aurait pu conclure ce podcast en une phrase. C'était pas le but, mais cette histoire du bon moment...
Mais non, mais toi, par contre, est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es posé cette question-là de savoir si c'était le bon moment ou pas ?
Oui, énormément de fois. De toute façon, quand tu es entrepreneuse, quand tu entreprends, tu te poses cette question des milliers de fois. Enfin, je veux dire, c'est la prise de risque dans ce choix de vie, il est permanent. Parce que de toute façon, cette question de se dire est-ce que c'est le bon moment, ça veut dire qu'on est déjà dans le fait d'envisager une prise de risque. Alors qu'il soit plus ou moins grande, hein, parce que est-ce que c'est le bon moment de partir en week-end ou est-ce que c'est le bon moment de changer de taf, on est d'accord que ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais il y a quand même ce truc-là de se dire est-ce que je le tente en fait. Et comme tu le disais tout à l'heure, c'est cette inconnu en fait qui à un moment donné peut être anxiogène ou peut amener un peu de stress, etc. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, surtout dans un épisode que je voulais faire sur le fait de lancer un projet. Ce stress-là, pour moi, il est hyper moteur. Et c'est pour ça que j'aime autant entreprendre. Mmh. C'est-à-dire que cette question de se dire est-ce que c'est le bon moment, bien sûr que ça amène des questions, mais ça devient challengeant.
C'est ça, mais pour toi, il est moteur. Pour, c'est vrai que pour certaines personnes, il est paralysant, tu vois, ce stress.
Ouais. Ah bah complètement, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment... C'est là, parce que tu me poses la question
pour
moi.
Oui, oui.
Mais je sais très bien que c'est corrélé au fait que j'entreprends et que j'aime entreprendre et que je ne pourrais pas faire autrement. Après, il y a peut-être des moments dans ma vie perso, et là, j'essaie d'y penser, où je me suis dit, est-ce que c'est le bon moment de faire ça ou ça ? Je sais que ça s'est posé sur le deuxième enfant. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit... On ne veut pas qu'ils aient trop d'écart d'âge, machin, etc. Donc, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce qu'il faut le faire, etc. Aujourd'hui, Samuel va subir... j'aime pas ce mot, subir, c'est horrible. Mais va avoir faire une opération de vasectomie, donc de contraception définitive. Donc, la réponse est que non, ce n'était pas le bon moment parce que nous ne voulons pas et que nous ne voudrons pas et que nous ne voulons pas ce moment, en fait. Nous ne voulons pas de deuxième enfant, tout simplement. Mais il y a eu ce truc qui, du coup, était vachement, tu vois, corrélé à ce que la société attendait, de se dire, oh là là, Gaspard grandit, il a deux ans d'écart... est-ce que c'est pas l'idéal pour un deuxième enfant, machin, etc. Tu vois, et t'as ce truc-là, en fait, de te poser la question, alors que fondamentalement, au fond, on s'est regardé, on s'est dit, mais on n'en a pas envie, en fait. Et tu sais, on repoussait le truc, et on était là, et on anticipait des choses qui n'existaient pas. Et en fait, on vient à te dire, parfois, cette question de est-ce que c'est le bon moment ?
Parce que c'était même pas un moment, en fait.
En fait, mais c'est ça. Mais je pense que cette question peut amener, parfois, à se dire, si je me pose cette question, et que je me rends compte que, tu vois, il y a une espèce de procrastination à y réfléchir et à mettre en place des actions et machin, etc., peut-être qu'en fait, au fond, moi, j'en ai pas réellement envie. Là, pour moi, c'était le cas.
Mmh. Parce que là, tu as senti une pression à ce niveau-là ?
En fait, je sais pas trop. J'arrive pas trop à l'analyser. Je pense que c'était un truc, et c'est terrible, mais comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, c'est ancré, genre, j'ai eu un enfant, je vais en avoir un deuxième, parce qu'il va pas rester seul, et puis moi, j'ai eu une petite sœur, et Samuel, il a trois frères. Enfin, c'était même pas une réflexion, en fait. Et pourtant, je suis tombée enceinte après Gaspard.
Ça a coulé de source, mais en fait, ça a coulé de source dans le scénario que vous étiez fait. Et en même temps,
je suis tombée enceinte dans tes après ressentis, Gaspard. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis tombée enceinte après Gaspard et je savais que c'était pas le bon moment là pour le coup.
Oui, là tu l'as
tu vois
su.
Donc,
ouais, tu as su que c'était pas le bon moment.
Donc c'est toujours ce truc-là et dans les décisions comme ça, enfin, je veux dire, ce qui est hyper aidant, c'est de ne pas être seule en fait. Parce que c'est...
Oui, mais parce que là en plus c'était pour le coup quelque chose qui vous concernait.
Complètement, mais tu verras comme moi qu'il y a des décisions comme ça où les femmes se retrouvent extrêmement seules et livrées à elles-mêmes parce que c'est leur corps, parce que tu vois.
Puis là pour le coup, quand il s'agit de, comme tu dis, question du corps et de tout ce que ça peut engendrer, parce que pour le coup, mettre au monde un enfant, c'est normal qu'à un moment donné la question se pose de savoir si c'est le bon moment ou pas. Il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations de précarité qui font que en fait c'est clairement pas le bon moment pour elles et même parfois elles en ont le désir mais pas maintenant ou parfois en fait c'est juste pas maintenant, il y a pas de désir et c'est complètement ok aussi. Mais du coup dans ces cas-là, ce n'est pas le bon moment, vient pas entraver, tu vois, des
non.
Je pense que la décision est compliquée parce que, bon, voilà, toi-même, tu sais que tout ce qui est recours à l'avortement, c'est encore très négativement connoté aujourd'hui.
Oui, et puis ça reste difficile.
Ça reste très difficile.
Je veux dire, moi, j'ai vécu deux avortements dans ma vie. Ce n'est jamais une partie de plaisir, même si tu as une décision très claire dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire ?
Je ne vois pas comment ça pourrait être une partie de plaisir en même temps.
Voilà, mais parce que tu sais qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ça, de fabulations sur cette idée que, tu sais, le pire terme, les avortements de confort. Mais laissez-moi vomir, en fait. Enfin, personne n'avorte par confort. Non, mais c'est terrible,
je veux dire,
c'est complètement infantilisant. Et bon, on pourrait faire tout un sujet. Je crois que l'épisode Être féministe en 2022, on fait un petit teaser, sera bien chargé et bien garni. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi que là, c'est une décision qui, du coup, impute tellement de choses parce qu'il y a une responsabilité, parce que ça va engendrer aussi... une décision qui impacte beaucoup de tes domaines de vie. Tu vois, c'est pas pareil que, comme on disait tout à l'heure, est-ce que c'est le bon moment de partir en voyage, est-ce que c'est le bon moment d'oser me teindre les cheveux, ou tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est,
non, voilà. Là, ce sont de grosses décisions.
Mais je pense que, comme tu disais, ça fait appel au même mécanisme de réflexion, d'anticipation.
Ah, mais complètement. Et puis, de toute façon, en fait, parfois, le cerveau, il va préférer... En fait, comment dire ça ? parfois on sait que le chemin qu'on doit prendre, c'est un autre chemin. Mmh. On sait que ça va être celui qui va peut-être le mieux nous convenir. Mmh. Mais vu qu'il est inconnu, on va parfois rester dans le chemin, l'ancien connu, chemin, le chemin connu, même s'il est plus source de souffrance pour nous. Parce que parfois, l'inconnu fait plus peur que de se dire que en fait, tu restes dans quelque chose de connu, même si ça te fait souffrir. Et ça fait partie aussi des freins. On en vient à amener du changement et à se lancer dans quelque chose et à se poser la question du bon moment. Parce que au-delà du fait que finalement, tu vas vers quelque chose d'inconnu, ça veut dire aussi que tu renonces à quelque chose. Bref, donc c'est pour ça que c'est toujours difficile d'engager du changement, de passer à l'action, etc. Parce qu'on va vite être réattiré par ce qu'on connaît le mieux. Il y a un côté sécurisant à ce qu'on connaît bien.
Ouais, mais en fait, c'est vrai que le cerveau, il est quand même là pour qu'on survive. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est son but premier, voilà. De toute façon.
Lui, il est là pour... Alors, il se compose de plusieurs parties. Mais il y a quand même une sacrée partie qui est là pour un peu le truc primaire, quoi. Il faut qu'on vive, il faut qu'on survive, il faut qu'on vit. Et quand tu as des espèces de décisions qui vont t'amener à oser, à risquer, à machin, qui, comme tu dis, justement, vont amener à du stress, de la peur, d'anxiété, etc. C'est pas forcément ton meilleur pote de prime abord. C'est possible que ça devienne, avec de l'entraînement, comme tu dis, le fait de s'y confronter et de voir que tout se passe bien et de s'adapter face à des changements, des possibilités, des erreurs, entre guillemets, voilà, etc. Bon, que petit à petit, justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que moi, la prise de risque, c'était un stress qui me stimulait. C'est pas que je suis maso. C'est qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui a engendré du plaisir beaucoup de fois dans ma vie et qui, surtout dans le domaine du travail, et qui est un domaine hyper stimulant pour moi, voilà, a été émotion, joie, plus.
Est-ce que tu te dis que quel que soit ce que tu peux entreprendre, t'as quand même un filet de sauvetage ou pas ?
En fait, déjà, je crois en moi profondément.
Ouais, sacré.
C'est la base. Enfin, je veux dire, ça, c'est sûr que c'est. Et je sais bien que c'est pas genre juste un matin, tu te lèves et tu dis allez, je crois en moi. Non, c'est tout, toute une construction. Hein. Enfin, je veux dire que ce soit la confiance, l'estime, l'affirmation de soi. Enfin, voilà, on en parle suffisamment ici. Mais bien sûr, ça a été une construction déjà qui part de très très loin dans mon enfance. Mais bref, c'est clair que de toute façon, dans ce que j'entreprends, je crois en moi. Je crois que j'ai du talent aussi pour ça. Entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire et c'est totalement ok. Par contre, mon exigence et mon énergie, et ce sera l'objet d'un prochain épisode, je le mets au service de ce en quoi je crois, c'est-à-dire entreprendre des projets, commencer des projets et tout ce qui est créativité. Là-dedans, je m'y plais et j'y mets beaucoup d'exigences, mais du coup, ça m'apporte aussi beaucoup de satisfaction.
Mm-mm.
Donc, quand il y a un challenge qui se présente, bien sûr que parfois c'est stressant, parfois c'est chiant, et que tu passes... J'ai vraiment des périodes où je craque, et c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal dans le sens où ça fait partie des montagnes russes, surtout quand t'as beaucoup de choses en charge, etc. Mais la finalité, si on fait l'addition de ce genre de décision et de la question de base qui est-ce que c'est le bon moment d'entreprendre ça, à la fin... J'en retire une expérience qui est positive. Et positive ne veut pas dire que ça réussit. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que la décision qui a été prise avec cette question, est-ce que c'est le bon moment pour faire ça ou ça, ou pour entreprendre telle chose, ce n'est pas parce que c'est réussi qu'on a bien fait de se poser la question. L'idée, c'est juste que le process, j'en ressors avec quelque chose, un apprentissage, une autre réponse, une autre question aussi.
Oui, mais c'est d'ailleurs ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi en osant, mais parfois des petites actions, qu'on apprend sur soi, ou on apprend un peu plus d'éléments sur la question de base, où la question de base évolue. Et c'est ce qui fait aussi qu'on peut affiner des projets, affiner des décisions, des prises de décision.
S'affirmer dans
certains
choix. Parce
que souvent, on réfléchit et c'est vraiment ce qui va différencier en fait, ce qui est rumination concrète et rumination abstraite. Quand tu rumines de façon abstraite, tu pars, c'est flou en fait. Tu réfléchis sur des problèmes qui n'existent pas, sur des choses qui pourraient se produire mais qui se produiront peut-être jamais. Enfin bon bref, c'est complètement flou, ça s'arrête jamais. Alors que quand tu réfléchis concret, tu détermines en fait des choses concrètes à mettre en place, tu les mets en place et en fonction du résultat que ça donne, soit tu te réajustes et tu reprends des solutions antérieures, soit tu poursuis parce que du coup tu as de toute façon eu de nouveaux éléments te permettent d'affiner. Et parfois, une mise en action, ce n'est pas plus que ce qu'on a dit tout à l'heure, faire une balance décisionnelle, c'est-à-dire poser les pour et les contre, faire une recherche sur internet, en discuter avec une personne concernée ou pas.
Non mais ça, ça peut être... Enfin, il y a une heure, on était en train de trier des vêtements et je veux dire non mais tu vois et à un moment donné tu regardais tes vêtements et t'as regardé un vêtement et je t'ai dit tu vois là moi je te vois grave là-dedans et tu l'as regardé tu t'es dit mais ouais mais en fait mais moi aussi de ouf et en fait ça me plaît et c'est tu vois on parle d'un truc c'est pour contrebalancer avec des décisions énormes genre des trucs de taf et tout c'est des trucs de tous les jours je veux dire choisir un vêtement dans ta penderie mais C'est un questionnement qui, à un moment donné, t'a amené un élément de réponse qui peut être un matin, quand tu vas te réveiller et que tu vas te mettre devant ta garde-robe, tu vas te sentir bien.
C'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. C'est exactement merci de me l'avoir fait.
Avec plaisir.
Parce que la vérité, c'est que nous avons été coupés. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que quand tu pars sur un autre chemin, tu renonces à quelque chose. Oui. Et parfois, renoncer à quelque chose, pour certaines personnes, c'est très difficile. Même si tu renonces à ta zone de connu, ce que tu appelles ta zone de connu, j'aime bien, c'est beau. Même si tu renonces à ta zone de connu et à son lot de souffrance, parce que parfois, il n'y a pas et parfois, il y a souffrance, mais c'est quand même renoncer à quelque chose.
Bien sûr, bah, choisir, c'est renoncer, mais oui, c'est un
oui,
peu ça.
Oui, cette phrase est... mais cette phrase est vraie.
Cette phrase est vraie.
De toute façon, quand tu fais le choix de quelque chose, tu renonces à autre chose. Et c'est pour ça que c'est terrifiant, parce que il y a souvent la peur de se tromper, c'est ce que je disais tout à l'heure, même si on a le droit de se tromper. Mais il y a aussi la peur de regretter.
Ouais, ouais, le
regret. Tu vois ?
Les remords, le regret, le truc et tout. Mais oui, bien sûr. Et là, je pense qu'on peut revenir, on va pas y revenir sinon. Vous savez, on peut vous garder longtemps avec nous. Mais à ce qu'on disait du début, de cette espèce de notion de temps et de perte de temps. Et tu sais, on est vachement dans ce truc de rendement. Et au final, même si tu es dans cette logique, si t'es dans un truc de rendement et tu dis ouais mais quand même franchement perdre mon temps machin etc parce que t'as vachement cette notion là de perte de temps et tout, bah comme tu disais tout à l'heure entre les ruminations abstraites et concrètes, bah c'est clair qu'en termes de perte de temps tu peux te dire bah c'est sûr que quand je mets en place des actions je perds moins mon temps, bon on est bien d'accord, mais on n'est pas forcément obligé d'être dans cette logique là de rendement. C'est pour ça que comme je le disais tout à l'heure, parfois des questions qui vont amener à des process tu vois hyper longs, d'imprévus etc, à la fin tu n'as pas de réponse mais tu as une autre question. Et tu peux te dire, waouh, j'ai perdu un peu mon temps là quand même. Mais en fait, non, parce que
bah, tu avances.
Tu t'alignes en fait. Tu vois, tu te recentres. Et ça, pour le boulot, et j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui nous contactent, qui me contactent sur la partie entrepreneuriale, tu vois. Mais c'est parce que c'est vraiment un questionnement et parce qu'on n'est pas du tout élevé, éduqué dans ce truc-là de se construire seul. Alors, tu ne te construis jamais seul, mais tu vois, vraiment, d'entrepreneuriat, d'entreprendre, qu'est-ce que ça évoque ? Enfin, on est vachement plus conforté dans cette idée de salariat et tout, et c'est totalement OK. Attention, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, mais juste parce que bah, moi, je peux parler que d'une seule side de la vie, parce que j'ai été toute ma vie entrepreneuse, mais ce truc-là de dire, à un moment donné, la décision que tu vas prendre à un instant T, peut-être qu'elle aura du sens dans 2 ans. Et c'est loin 2 ans quand t'es dans une décision et quand c'est, tu vois, et que c'est t'es en train de te projeter.
Enfin, carrément.
C'est hyper loin, tu vois. Et l'idée, c'est pas de se dire, oh là là, j'anticipe le fait que est-ce que ça va être vraiment impactant dans 2 ans ? Non, pas du tout. Mais pour un boulot, par exemple, aujourd'hui, quand je vois rien que Cracotte, qui est ma boutique en ligne, bref, c'est pas le sujet, ce que ça devient et la façon dont ça s'affine. Et quand je pars du projet de base, mais je me dis, mais oui. Non, mais c'est hallucinant. Mais pourquoi ? Mais à l'époque, je ne me suis pas demandé si c'était la bonne décision ou le bon moment. Non, j'ai commencé comme je l'avais en tête. Et au fur et à mesure du temps, eh ben, y a d'autres questions qui se sont posées, qui ont amené d'autres questions, qui ont amené d'autres éléments, comme tu disais. Et au final, ça s'affine. Et à un moment donné, c'est ce sentiment qui est hyper, hyper valorisant de se dire, OK, je crois que je
touche
du doigt. Et
puis, t'es passé par des moments où, en gros, entre gros guillemets, hein, mais tu t'es planté. Tu vois ce que je veux
mais
dire?
Bien sûr!
Des moments où ça l'a pas fait, où ça l'a pas fait comme tu l'aurais voulu. Mais c'est à ce moment-là que tu as su te réajuster parce que tu avais les solutions à ce moment-là, parce que tu savais quand, comment, pourquoi, avec qui, qui a fait que tu as su trouver les solutions à mettre en place pour te réajuster.
Oui, c'est des indicateurs.
C'est toujours
en fait
la même chose.
Bien sûr.
Et c'est ce qui fait que, mais ça on le répétera toujours, mais c'est ce qui fait que un problème qui n'existe pas ne peut pas être résolu en amont. Puisque tu ne sais jamais quand, comment, pourquoi, avec qui. Et puis de toute façon, sauf si l'un d'entre vous a des dons de voyance, mais je mets au défi quiconque de me dire et de me trouver un instant de sa vie qu'il a anticipé
exactement
de la façon dont ça s'est produit, en fait.
Ouais. Oui, bien sûr, mais ça c'est évident. Et heureusement, quelque part. Sinon, on ferait plus rien, tu vois ce que je veux dire?
Oui,
si on savait... s'imagine un truc horrible. Tu sais quel jour tu vas mourir, comment tu vas mourir, t'imagines? Tu sais que tu vas mourir en voiture. Non, mais c'est un truc con, mais tu ne prends plus jamais ta voiture. Enfin, c'est...
Ça part trop loin.
Non, mais... tu sais, on a dit que cette saison 3, ça allait être nous, et nous, on part souvent très très loin. Mais voilà, je pense qu'on a fait un sacré tour de cette question et qu'on pourra encore en parler pendant des heures. Et l'idée de cette saison 3, c'est vraiment de pouvoir vous donner la parole aussi. Et en fait, on est Mathilde et Léa. On est chef d'entreprise, psy, influenceuse, maman, peu importe en fait. On est Mathilde et Léa et on a envie aussi d'avoir des discussions autour de ces sujets-là. Parce que ce qu'on aborde là, ça parle de nos valeurs, hein, bien sûr, et cette volonté de parler de santé mentale, de bien-être, de se poser des questions sur notre vie et de s'apporter un peu de mieux-être même, je dirais. Mais c'est aussi intéressant, je trouve, d'aller plus loin dans ces sujets. Et c'est pour ça qu'on sera ravis de poursuivre la discussion sur nos réseaux.
Avec grand plaisir.
Merci pour ce moment, maintenant dans la nuit.
Oui, clairement, là, il fait tout noir.
C'est ça.
Je te discerne.
C'est ça. Heureusement qu'on s'entend parce que... Mais non, c'était très chouette de partager autour de tous ces sujets. On espère que ça aura un petit peu bousculé peut-être certaines choses. Ça aura éveillé certains questionnements, d'autres
sujets. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est de faire les choses pour soi, en lien avec ses valeurs. Et puis surtout, quand il y a des décisions à prendre, en fait, finalement, de mettre au moins des petites actions concrètes en place.
Enfin, mais c'est pas ce qu'on apprend dans le coaching Take Care.
Un petit peu, oui.
c'est incroyable, dis donc. Non, mais complètement. Et ben, c'est pas pour rien qu'on a voulu donner accès aussi à ces outils. C'est parce qu'on est convaincus que les petites actions font de grandes choses.
Mais clairement.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode.
Merci beaucoup.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé, ou tout de suite via notre programme de coaching sur programme.takecare.co. À la semaine prochaine.